Arthur ou l'alter ego de Walfred. Aussi loin qu'on se souvienne, Walfred avait toujours eu du mal avec le moindre travail physique. Il se sentait mieux à l'horizontale, dans sa propre couchette ou dans celle de n'importe qui d'autre, ou sur un coin de bruyère ensoleillé, la veste du lieutenant Hansen roulée sous la nuque. Et ce n'était dû ni à la torpeur ni à la paresse, car Walfred était au fond tout à fait alerte et travailleur quand ça le prenait. Doc penchait pour un manque de vitamines, alors que Björken considérait ça comme un phénomène psychique qu'il aurait pu mettre à plat en très peu de temps si Walfred le lui avait permis. Seul Laslil connaissait la véritable raison qui finit bien par filtrer malgré un vœu de silence et par devenir une histoire qui, à dater de ce jour-là, se raconta dans les cabanes sur toute la côte. Les dispositions de Walfred pour la position allongée furent un sujet de conversation l'été où l'on campa au rocher aux oiseaux de Humboldt afin d'y ramasser des œufs de guillemot pour les crocs de l'hiver. Un soir que les hommes étaient allongés autour d'un feu de brindilles de bruyère, occupés à digérer après un dîner concocté par le comte bœuf stroganoff à base de noix de bœuf musqué, Walfred, couché sur le dos, les bras sous la tête, bâilla profondément et dit « Si personne n'a rien contre, je préfère prendre une petite journée de repos demain. » Personne ne le contredit parce que tout le monde savait que Walfred ne supporterait pas une journée de plus en montagne. D'ailleurs, ajouta Walfred, ce serait tout à fait irresponsable de laisser tant d'œufs sans protection. Pourrait y avoir des renards, des corbeaux ou des ours qui viennent bouffer toute la récolte. Et puis comme vous savez, j'ai besoin de plus de repos que vous autres. Pourquoi ça ? Demanda Laslil qui voulait toujours tout savoir. Walfred leva la tête et le regarda. Ça vient d'un rêve, mon garçon. Et depuis ce rêve, je me sens toujours un peu mou et désarticulé.
Comment ça ?
Eh bien, c'est une longue histoire, je te la raconterai une autre fois. Walfred ferma les yeux en souriant, se lécha la bouche pour enlever un peu de sauce égarée dans sa barbe et s'endormit. Quelques jours plus tard, Laslil eut droit à l'histoire. Il avait glissé sur une savonnette dans la montagne, s'était cassé le bras, et de ce fait, il s'est donc condamné à rester au campement avec Walfred. Et comme ce dernier était frais et dispo après 2 jours de repos, il lui raconta son rêve, qui par la suite devait faire toutes les cabanes de la côte, année après année. Le lieutenant Hansen et Walfred gisaient dans le lourd sommeil de fin de nuit et leur sifflement de bonhommes endormis se mêlait harmonieusement au léger ronronnement de la cuisinière. L'obscurité régnait dans la petite pièce. Seul un mince ray de lumière filtrait d'une fente dans la porte de la cuisinière et allait mourir sur la plaque de tôle où était posé le seau à charbon. Walfred faisait un cauchemar. Il rêvait qu'exceptionnellement il se réveillait avant le lieutenant et que pour cette raison, il était obligé de ranimer la cuisinière. Infiniment lentement et avec maints soupirs et moult gémissements, il fut tiré de son délicieux sommeil par quelque chose de dur et de pointu qui n'arrêtait pas de le gêner sur un côté de son corps. Irrité, il se gratta la hanche, mais la chose pointue se déplaça jusqu'à sa poitrine où elle s'enfonça juste sous un des mamelons roses. Alors, Walfred avança un bras, gratta une allumette et parvint à allumer la lampe. Il rejeta sa couverture de côté pour tirer l'affaire au clair et vit à sa grande surprise qu'un squelette de taille adulte reposait à côté de lui. Il ramena instantanément la couverture sur lui, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Il ferma les yeux et s'efforça de penser qu'il n'était absolument pas réveillé et que la camarde qu'il venait de voir participait juste d'un rêve particulièrement réaliste. Réconforté par cette idée, il allongea une main le long de son corps. Ses doigts tombèrent sur un col du fémur qui ne lui appartenait pas. Effrayé, Walfred retira la main. Pendant un moment, il resta à respirer de façon saccadée et époumonée, comme s'il avait monté et redescendu la montagne du Fimbul au petit trot. Ensuite, il réessaya, avança un doigt et fit glisser l'ongle sur tout un grillage de côte. Même si la couverture assourdissait la gamme, il était évident que le squelette était réel. Il soupira, résigné, et enleva à nouveau la couverture. « Tu commences à t'y faire ?» demanda une voix caverneuse et inconnue. Walfred hocha la tête. « Dieu, quel cauchemar !» Il avait la bouche sèche, et cette sécheresse descendait loin dans la gorge tant il était terrifié, et il sentait le cuir chevelu le picoter dans la nuque sous l'effet des poils hérissés.
T'avoueras que c'est un peu inhabituel, murmura-t-il la voix pâteuse.
Qui es-tu, si je peux me permettre? Le squelette le fixait de ses profondes orbites creuses. Il claqua bruyamment des mâchoires plusieurs fois, bien montré à Walfred qu'il lui manquait ses dents et dit « Je suis Arthur. J'essayais de me ménager un peu de repos, mais tu gigotes beaucoup. C'est pour ça que je t'ai donné un coup de coude. » Walfred regarda au fond des yeux vides. Il se rallongea sur sa paillasse. « Eh bé, voilà que le vertigo a fini par te rattraper toi aussi, mon petit Walfred. Maintenant, s'agit de régler le problème calmement. Vaut sûrement mieux poser quelques questions terre à terre à ce monstre pour s'y prendre avec le maximum de naturel. « Tu bois de l'eau de vie » demanda-t-il. « Volontiers, répondit Arthur, en hochant la tête si bien que quelques vertèbres cervicales craquèrent. « Je bois tout ce que tu bois, toi, Walfred. » Cette réponse eut l'heur de plaire à Walfred qui se découvrit une sympathie naissante pour Arthur, une fois la première frayeur calmée. Il se releva et regarda par-dessus le squelette. « J'ai rien contre les squelettes, dit-il gentiment, mais comme tu l'as toi-même remarqué, il n'y a pas vraiment la place pour deux dans cette couchette. Donc, si tu as l'intention de rester un certain temps, ce serait peut-être une idée de demander à Hansen de te bricoler une couchette, à moins que tu préfères une bonne bière matelassée. » Arthur se redressa en grinçant et sortit de la couchette. On verra ça avec Hansen quand il se réveillera, dit-il. En attendant, je vais me coucher sur la table de la cuisine. Comme ça, on aura au moins quelques heures de vrai sommeil d'ici le lever du jour. Walfred hocha la tête. Il posa la joue sur le bord de la couchette et regarda Arthur d'un air contrit. Dis donc, puisque t'es debout, tu pourrais pas me passer une des boîtes de sardines là-bas dans le placard de la cuisine? Ça fait tellement de bien par où ça passe. Arthur servit les sardines qu'ils se partagèrent fraternellement. Walfred observait avec fascination les doigts maigres soulever les petits poissons de leur boîte pour les faire disparaître dans la gueule immense. Fasciné, il regardait les sardines qui descendaient. Mais après la bouche, elles disparaissaient sans laisser de traces. « Qu'est-ce que t'en fais ? » demanda-t-il. « Aucune idée. » Arthur renversa la nuque et se versa une rasade d'huile dans la gorge. « Est-ce que tu vois, toi, ce que deviennent les tiennes une fois que tu les as balancées derrière tes gencives ?» C'était là une réponse raisonnable et Walfred eut un sourire prévenant pour le Tados. Mais alors dis-moi, Arthur, comment tu fais pour mâcher de la bidoche, par exemple, puisque t'as pas de dents ?»« D'habitude, j'emprunte les tiennes, répondit Arthur. Walfred se gratta le nez. Alors là, t'es un peu moins bon, mon petit Arthur, vu que c'est des dents du commerce presque neuves et que je suis pas trop enclin à les prêter à qui que ce soit. Dans ce cas, t'aurais dû me laisser les miennes, répondit Arthur, au moins quelques-unes. Une pour la viande et une pour le poisson. Parce que c'est moi qui t'ai enlevé tes dents. Walfred, interloqué, regarda Arthur, qui s'était finalement couché sur le banc de la cuisine. Naturlich. Arthur tapota ses larges maxillaires. Elles étaient ici avant. Là, Walfred se sentit obligé de se rasseoir complètement. Il se sentait le corps un peu lourd et sa tête un peu molle penchait sur un côté. « J'y comprends rien à tes histoires, dit-il, sauf à croire que t'es mon propre squelette. » Arthur bâilla. « Ben voilà, tu l'as dit, Bouffi. Je me suis pris la liberté de quitter ton corps un moment. Rien de permanent, rassure-toi, mais je trouvais marrant de voir un peu le monde extérieur. » « Fichtre !» Walfred se mit à pouffer. « Ça alors, pour moi, pas de problème, petit Arthur. » Pose une perme, moi je reste volontiers tranquillement ici à me reposer. C'est exactement ce que je pensais, répondit Arthur. Vu que t'as jamais été du genre très énergique, tu sentiras à peine la différence. Et je suppose qu'il te reste quand même un peu de force pour t'allonger. Assez, admit Walfred. Il se mit à l'aise sur sa paillasse et ferma les yeux. T'es bien installé, toi? Ça peut aller, répondit Arthur. Mais je dois reconnaître que c'est quand même plus confortable à l'intérieur de toi. Le lieutenant Hansen se réveilla comme d'habitude à 8 heures pile. Il s'éjecta hors de sa couchette et commença ses flexions des genoux. Arrivé à la 10e, il s'arrêta net et fixa, les yeux écarquillés, Arthur qui, allongé sur le banc, le regardait de ses orbites vides. Le lieutenant claqua ses talons nus et s'inclina avec raideur. « Bonjour, dit-il d'un ton poli, lieutenant Hansen. Arthur sourit, et Hansen put contempler son sourire jusqu'à l'occiput. « Je m'appelle Arthur, répondit-il. C'est pas difficile, ça. Vous ne faites jamais de gymnastique le matin ?» Le lieutenant regarda le squelette avec stupeur. Arthur secoua négativement la tête et envoya un regard réprobateur vers Valfred qui, la tête penchée par-dessus le bord de la couchette, était en train de rigoler doucement. « Debout !» commanda Hansen. Et Arthur descendit bruyamment du banc. « Faites comme moi. Pliez complètement les genoux. Le derrière doit presque toucher le sol. Et puis, on remonte, le dos bien droit. Ensuite, on se penche en avant. Il faut que ça tire sur les jarrets. Oh là là, qu'est-ce que ça grince! Vous manquez vraiment de souplesse, jeune homme. Vous avez honteusement négligé votre corps. Encore une fois, 1, 2, 3, 4. Arthur trouva le rythme. Et pendant 10 minutes, les deux compagnons de maison s'abrutirent avec leur gymnastique, tandis que Valfred les regardait admiratif. « N'oublie quand même pas le café, Hansen » cria-t-il de la couchette. « Je crois que l'eau est en train de bouillir. » Hansen interrompit ses exercices, déroula les bandages de ses moustaches et enfila son pantalon. Il regarda Arthur, l'air encourageant. « Vous allez vite y arriver, Arthur. Après le café, je vous montrerai d'autres exercices. » Arthur et Hansen devinrent amis, et dans le rêve de Valfred, ils coexistaient comme la chose la plus naturelle au monde. Arthur était ignorant dans beaucoup de domaines, et le lieutenant l'instruisait comme s'il avait été un jeune conscrit à l'école militaire de Frédéricia. Comme Arthur n'avait ni peau ni chair, il avait tendance à avoir plus froid que le commun des mortels, et c'est pourquoi il emprunta à Valfred son pantalon en peau d'ours, son anorak en peau de renne, et ses kamiks en feutre à doublure en peau de chien. Ainsi vêtu, ça faisait un homme de belle prestance, presque beau, avec une physionomie intéressante, bien qu'un peu rentrée. Arthur et Hansen allaient ensemble inspecter les pièges à renards et le lieutenant apprenait le métier à son compagnon. Rapidement, ni les pièges à trappe ni les pièges à ciseaux n'eurent plus de secret pour Arthur. Il fut vite capable de déhousser des renards et d'en tanner les peaux et il passa maître dans l'art de faire du pain au raisin sec et des crêpes au lardon. Pour Valfred, cette période fut rien moins que paradisiaque. Rêve ou pas rêve, plus besoin maintenant de chercher des excuses à tout bout de champ, parce que, comme Arthur avait eu besoin de prendre des vacances, lui, Valfred, avait toutes les raisons de se transformer en mollusque qui ne faisait que manger, boire et se vider de temps en temps. Arriva le printemps. C'était un dimanche. Lentement, cela descendit la montagne de Fimbulle comme un fleuve d'argent fondu, glissa par la rivière des chiens à travers la maison, et en quelques instants, cela avait empli le monde entier de sa lumière flamboyante. C'est pour cela que Valfred se réveilla très tôt, se sentant frais et dispo après ces quelques mois d'alitement. Il regarda en bas sur le sol, où la lumière s'introduisait dans les larges fentes du parquet, en dévoilant toute la crasse de l'hiver, et il renifla avec son gros nez l'air de la pièce. Un sourire heureux éclata dans sa belle barbe. « Regardez-moi ça, mes amis, si c'est pas le printemps qui est de retour avec ses gazouillements d'oiseaux et sa chaleur qui vous pénètre jusqu'au fond des os !» Hansen et Arthur se réveillèrent tous les deux au mot de Valfred. Ils fixaient le rayon de lumière du soleil, qui se déplaçait rapidement sur le sol, et Arthur poussa un gémissement de surprise. « T'as dit jusqu'au fond des os, Valfred ?»« Je me suis toujours demandé ce qui pouvait bien chauffer si agréablement cette période de l'année. » Il observa avec curiosité la lumière jaune, et enfonça pour voir un doigt osseux dedans. Le lieutenant Hansen s'habilla en toute hâte et sortit de la maison. Il s'assit sur les vestiges de la cabane des munitions qui avaient explosé, et contempla, émerveillé, la marée brillante du printemps, cet océan lumineux de chaleur qui donnait la vie et qui s'introduisait loin à l'intérieur de son pull islandais et le transportait dans un monde de doux souvenirs. Le visage tourné vers le soleil et les narines dilatées, il sentait son cœur ruisseler de bonheur et de volupté. Un court instant, il se trouva séparé de sa vie arctique. Il ressentit le parfum des murs et des prunelles, de l'herbe fraîche et de la terre mouillée. Il sentit cela couler au travers de son long corps maigre et regarda, tout à coup effrayé, sous sa ceinture, pour découvrir que c'était une volupté bien bénigne qui l'avait surpris là. Au café de 11 heures, le lieutenant Hansen dit à ses amis « Le printemps est arrivé, il faut que quelque chose se passe. Valfred, je crois que nous allons partir en voyage. » « Mon Dieu, petit Hansen, ne me dis pas que ça te reprend !» Valfred regarda son compagnon avec inquiétude. « Cette fois-ci, Dieu merci, c'est un autre genre de volupté qui bouillonne en moi, » répondit Hansen. « C'est le grand désir de voyage qui s'empare de l'homme quand le printemps prend ses quartiers. » Valfred poussa un soupir de soulagement. « Ah bon ? On peut supposer que ce désir-là sera moins pénible que quand on avait après les bonnes femmes. Où veux-tu aller, Hansen ?»« Je veux être l'ambassadeur du printemps, » répondit Hansen soudain lyrique. Nous allons partir rendre visite à nos nombreux amis sur la côte et leur proclamer le grand miracle. Ça sonne presque religieux, trouva Walfred. Tu t'es pas converti, j'espère, Hansen? D'une certaine manière, si, admit le lieutenant, mais pas à la manière du curé d'enfer. Qu'en dites-vous? Vous venez? Arthur hocha la tête avec empressement. J'aimerais voir le maximum de choses pendant ma permission, dit-il, parce qu'à l'intérieur de Walfred, mes expériences sont plutôt limitées. Walfred sourit. Bien sûr, si vous autres, les deux gaillards, vous voulez bien d'une saucisse molle comme moi à la traîne, j'ai rien contre un petit voyage de visite. Mais peut-être que je vous serai une charge. Arthur et le lieutenant lui assurèrent qu'il ne leur serait en aucun cas un poids, et il fut décidé qu'ils iraient faire le tour de tous les districts pour annoncer l'arrivée du printemps, et par la même occasion, présenter Arthur aux collègues. Et ils se mirent en route pour Bjorkenborg. Walfred gisait sur le traîneau, bien emmitouflé dans un sac de couchage en peau de renne. Sur son crâne lisse, il avait chaussé un bonnet de laine rouge, il portait une écharpe tricotée par Fjordur, et derrière les dents du commerce, il avait placé une chique toute neuve. Il avait une lueur joyeuse dans ses petits yeux bleus quand il dit au lieutenant « Hé, Hansen, je suis plutôt soulagé qu'on n'aille pas au Cap Sud se faire rabaisser la hampe !» Le lieutenant hocha gravement la tête. Lui et Arthur couraient derrière le traîneau pour entretenir leur chaleur. « C'est quoi le Cap Sud ?» demanda Arthur. La position de Walfred entraînait des coulures de jus de chique à partir des coins de sa bouche. « C'est une sorte de sanatorium pour chasseurs en chaleur. » Un endroit où il y a des dames, Arthur, gentilles et jolies, pour peu qu'on aime le genre tout-terrain.
Comment ça, le genre tout-terrain?
Ouais, un peu basse dans la partie inférieure du corps, avec des jambes fortes et en pleine santé. Mais elles ont de beaux visages avec des cheveux noirs et des yeux marrons, et de grands sourires chaleureux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles peuvent sourire ces petites là-bas en bas, et de façon tellement hospitalière?
Qu'est-ce que tu veux dire par hospitalière?
Ce sont des sourires qui invitent à pénétrer à l'intérieur.
« Sois le bienvenu, » disent les sourires.
Et ça, même si les hommes sont partis à la chasse. Et puis elles rigolent comme des gamines, et elles font bouillir le café qu'elles servent avec des gâteaux aux raisins secs à la levure chimique. Après, elles servent quelque chose de plus rafraîchissant qu'on appelle de l'ignac. C'est ce que brasse Björken.
Et après l'ignac?
Arthur se pencha par-dessus le traîneau pour ne pas en rater une miette. « Après l'ignac, tu demandes ?» Walfred regarda le crâne creux d'un air innocent. « Oui ?» Est-ce que c'en est fini avec l'hospitalité après l'Ignac?
Ah, non, pardi. On te donne tout ce que tu veux.
Au Cap Sud, on fait pas dans le médiocre, Arthur. Plein de questions brûlaient sous la large voûte crânienne d'Arthur. Mais pour le moment, elles étaient si embrouillées qu'il n'arrivait pas à les formuler. Il déglutit énergiquement et hocha la tête, l'air de celui qui a tout compris. La visite chez ceux de Bjorkenborg fut une véritable réussite. Naturellement, on fut au départ un peu réservé vis-à-vis d'Arthur, ce qui tenait sans doute davantage de la gêne que de la mauvaise volonté. Parce que ce n'était pas tous les jours qu'on avait la visite d'un squelette. Mais déjà, au cours de la soirée, les trois chasseurs de Bjorkenborg capitulèrent devant la simplicité naturelle d'Arthur. Pendant que la viande bouillait sur la cuisinière, tout le monde s'installa autour de la table pour savourer un petit apéritif qui provenait de chez le comte. Laslil, qui avait du mal à détourner ses yeux grands ouverts d'Arthur, ne tenait pas en place sur sa chaise. Il frissonnait chaque fois que le squelette renversait la nuque avec un craquement pour verser le vin entre ses mâchoires vides. Museau avait ôté ses lunettes, une manière comme une autre d'éviter la camarde. Il avait vu Arthur dehors, avait écouté les explications de Walfred et avait même été jusqu'à serrer la paluche à l'inconnu, non sans quelque réticence d'ailleurs. Et c'était amplement suffisant. Rester à regarder une tête de mort les yeux dans les yeux à en voir des papillotes, c'était pas son style. Björken, lui, réfléchit longuement et profondément à ce phénomène surprenant. Comment était-il possible pour un squelette de se glisser hors du corps? Quel chemin prenait-il? Sauf erreur, le corps humain n'avait que deux sorties. Et de toute façon, comment s'y prenait-il pour tenir ensemble sans cartilage ni tendon? En ce qui concernait le corps vautré de Walfred, il n'y avait pas de mystère, parce qu'aussi, loin en arrière qu'il se souvienne, le corps de Walfred avait toujours été si flasque qu'on voyait à peine la différence entre avant Arthur et maintenant. Il se tourna vers Arthur et dit « En tant que chef de station, ça m'est un grand plaisir de te recevoir, Arthur. Tu ne dois pas nous en vouloir si nous avons eu l'air un peu désappointé quand on t'a vu sans tes vêtements de voyage. Mais une fois la première surprise passée, tu nous sembles, peut-être pas tout à fait naturel, mais au moins acceptable.
Nous avons entendu dire que tu t'étais faufilé hors du corps de Valfred, mais nous ne savons pas ce qui te lie et comment tu vis. Et nous en savons aussi peu sur la manière dont Valfred tient, malgré tout, ensemble. J'ai naturellement pensé à des moyens aussi terre à terre que de la gélatine ou de la fécule de pomme de terre, mais je suis plutôt arrivé à cette conclusion qu'ici, dans le nord-est du Groenland, il y a bien plus de choses entre le ciel et la terre que de l'air. N'avons-nous pas tous connu la Vierge froide, Emma? Et est-ce que notre ami ici présent, Laslil, n'a pas vécu avec une jeune Esquimau du siècle passé? Nous avons tous vécu des choses qui, a priori, ne sont pas de ce monde, des expériences qui se situent bien au-delà de vos capacités de compréhension. Rappelez-vous, Alvor, et vieux Nils, où Alvor fut touché par la grâce, et où vieux Nils le suivait comme son ombre alors qu'il était mort. Il regarda gravement ses amis, fixa les visages l'un après l'autre pour laisser à ses mots le temps de bien décanter, puis il continua. Vous êtes limité parce que tout savoir serait pour vous un poids insupportable. Rares parmi les hommes sommes-nous à pouvoir nous arracher au marécage sans fond de l'ignorance, et dans cette assemblée, il n'y en a qu'un qui, à juste titre, peut être considéré comme savant. Avec un sourire flatteur, il avança la main. Bienvenue à Björkenborg, cher Arthur, dit-il. De tout cœur, bienvenue. Arthur se leva, il cliqueta agréablement quand il se pencha par-dessus la table. Il posa sa collection d'osselets froids dans la poigne de Björken. Profondément ému, il dit: J'avoue que je n'aurais jamais osé espérer un accueil aussi chaleureux, et c'est avec les plus grands scrupules que je me suis risqué hors des chairs rassurantes de Valfred. C'est là une expérience unique. Je ne crois pas qu'il existe un autre lieu au monde que le nord-est du Groenland où l'on admette un squelette vivant, sans façon et sans réticence. Aucun d'entre vous ne m'a posé ces questions stupides auxquelles il est impossible de répondre. Je suis, à part les dents que Valfred s'est fait arracher il y a de ça bien longtemps, un élément d'un être humain à part entière. La seule différence entre moi et ce qui se trouve à l'intérieur de vous, c'est que moi, je suis visible, alors que vos ossements à vous restent cachés jusqu'au jour où vous déchaussez vos kamiks, qu'on vous enterre et que vous pourrissez. Je suis, comme vous le voyez, très ému, et si ça continue, je vais me mettre à chialer. Parce que des amis comme ça ne se trouve qu'en Arctique, où l'amour et la tolérance sont des choses naturelles. Et puis, Arthur s'assit et se mit à sangloter doucement, ce qui eut pour résultat que Museau, sans un bruit, remit ses lunettes sur son nez pour voir comment les larmes pouvaient perler des ossements blancs des orbites. Et Museau renonça à la petite réserve qui le rongeait. Il passa, embarrassé, une main à travers sa chevelure hirsute et dit: Tabac à priser ou chic, Arthur? Arthur regarda le petit homme à lunettes. Il trouva la proposition pleine de tendresse et d'égard envers autrui. Tabac à priser, s'il vous plaît, répondit-il. Et il enfonça deux phalanges dans la boîte de museau et attrapa une prise costaude, qui disparut derrière la mâchoire supérieure et qu'on ne revit plus jamais. Partout sur la côte, Arthur fut très bien accueilli. Une fois passée la première surprise, personne ne trouvait bizarre que le squelette de Valfred ait eu envie de prendre des vacances au grand air, parce que comme tout le monde savait que Valfred préférait être allongé et se reposer, il devait offrir une vie bien tristounette et casanière pour un squelette heureux de vivre. Si un squelette souhaitait quitter le corps qu'il soutenait, et s'il trouvait un arrangement avec le corps en question pour une telle excursion, il n'y avait rien à ajouter. C'était une affaire entre eux qui ne regardait personne d'autre. Anton surtout s'attacha vraiment à Arthur parce que les ossements blancs et cliquetants parlaient à son imaginaire. Il écrivit plusieurs beaux poèmes qu'il lut à haute voix à ses copains, des poèmes qui n'étaient pas très faciles d'accès car Anton traversait une période difficile. Mais c'était des poèmes écrits par un homme dont on avait publié un livre, et tout le monde écoutait donc avec recueillement et applaudissait consciencieusement une fois le pensum terminé. Le printemps devint été, et c'est là qu'Arthur eut l'idée lumineuse de vouloir essayer, pour une fois, d'être tout seul. Il était un peu effrayé à l'idée de la foule qui allait se rassembler à l'arrivée de la Velle Marie, et il prétendit que sa simple apparence allait faire pisser dans leur froc le capitaine Olsen et tout son équipage. C'est pourquoi le lieutenant Hansen l'emmena par la mer à la forteresse du roi, une petite cabane avec couchette, cuisinière et table, et Hansen promit de revenir le chercher au cours de l'automne, au moment où on emporterait les provisions de Cap Thompson jusqu'à Fimbul. Comme toujours quand l'histoire d'Arthur se racontait, les opinions sur la fin étaient partagées. En quelques années, l'histoire s'était développée, avait pris de la consistance et de la profondeur, ceux qui la racontaient l'avaient imprégnée de leur propre personnalité, et Björken l'avait même analysée, prétendant que le rêve d'Arthur n'était rien d'autre qu'un système de défense inconscient de Valfred contre la tentation de quitter un jour l'Arctique. La véritable histoire, celle qui venait de la bouche même de Valfred, seul Laslil pouvait la raconter. Et la voici.
L'année où Arthur prit des vacances, un petit vapeur français arriva sous le 73e degré de latitude nord. Il passa par le détroit de Vega, où il y avait moins de glace, contourna l'île d'Himer et mit cap vers le fjord du Roi Oscar. Là, il jeta l'ancre au petit matin, à la hauteur d'une petite cabane couverte de cartons bitumés, et quatre scientifiques se rendirent à terre. Ils examinèrent la maison, virent qu'elle était habitée parce qu'il y avait encore des braises dans la cuisinière. Ils s'installèrent donc dans la bruyère pour attendre le retour de l'occupant. Après avoir attendu plusieurs heures, ils partirent à sa recherche dans la montagne derrière la cabane. Brusquement, ils s'arrêtèrent comme pétrifiés. Pour Arthur, la vie et la forteresse du roi étaient comme un miracle. Des heures durant, il restait couché sur le ventre, le crâne confortablement enfoncé dans les phalanges, à regarder les petites campanules se balancer et lui sourire si gentiment dans la brise venue du fjord. Ou il se couchait dans la bruyère, à poil, en prenant des bains de soleil qui lui faisaient presque bouillir la moelle. Un jour, il se réveilla de sa sieste à cause de deux rouges-gorges qui avaient commencé à faire leur nid dans sa cage thoracique. À dater de ce jour, il dormit toujours avec un tricot de corps. Il dormait encore quand les quatre scientifiques le soulevèrent. Et c'est seulement quand ils le rangèrent délicatement au fond de la yole qu'il sortit de sa sieste. Il regarda, terrifié, les visages inconnus et pensa que maintenant il s'agissait de la boucler, sauf à vouloir faire sensation et devenir une célébrité. Et cela, Arthur ne le voulait pas. Il voulait simplement rester avec ses amis, regarder les petites fleurs et se laisser griller par le soleil. Les scientifiques français le hissèrent à bord de leur bateau, où ils le rangèrent soigneusement dans une caisse garnie de copeaux de bois. Même quand on cloua le couvercle, Arthur resta muet. Et, conclut Laszlill à l'époque où il transmit l'histoire à Björken, on le transporta jusqu'à Paris, où on l'exposa sous une longue cloche à fromage, d'où il ne pouvait pas sortir par ses propres moyens. Le pire, c'est que Walfred ne sait pas exactement où est passé Arthur, et c'est pour ça que Walfred reste aussi mou et flasque. Peut-être que la cachette lui sera révélée dans un prochain rêve, suggéra Björken. Tu crois vraiment? Laszlill regardait son maître avec une admiration sans borne. Rien n'est impossible, répondit Björken. Souviens-toi de ça, mon garçon. Rien n'est impossible dans ce monde fabuleux.